invité, une playlist. Un mercredi soir sur deux, 20h-21h, tour de piste est sur Principe Actif.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Du 21 au 27 mars de cette année, un sacre du printemps célébrera sa 5e édition à Évreux. Ce festival de musique classique, pas comme les autres, proposera, comme à l'accoutumée, une programmation à la fois exigeante et variée. Elle naviguera du répertoire classique à la musique de l'Inde du Nord, en passant par de grandes œuvres du répertoire et beaucoup de musique vocale. À cette occasion, j'ai de nouveau le plaisir d'accueillir Bruno Boterf, ténor français et spécialiste de la musique ancienne. C'est en tant que directeur du festival qu'il est à mes côtés ce soir sur les ondes de Principe Actif, et je l'en remercie. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Laurent.
Merci d'avoir à nouveau accepté mon invitation. Je dis à nouveau parce que tu étais venu ici même le 4 mars 2020 pour présenter la 4e édition du festival. C'était aussi l'occasion de revenir sur sa jeune histoire. Il s'ouvrira comme chaque année ou presque le 21 mars. Quelles seront les particularités de cette nouvelle édition 2022 ?
Particularité, je dirais la même que d'habitude, c'est-à-dire le maximum de couleurs et, disons, le fait simplement de ne pas se consacrer qu'à un domaine. Donc ça, c'est plutôt cette idée de bouquet musical qu'on a adopté dès la première édition. Avec la particularité aussi peut-être de ce premier concert qui est le 21 mars, le jour du printemps plus ou moins, mais qui est aussi l'anniversaire de Jean-Sébastien Bach, donc ça on y tient cela. Et autrement, une diversité dans la programmation, donc comme tu le disais, avec des choses qui sont du domaine de la musique classique, romantique, vocale par exemple, ou le Requiem de Mozart dont on parlera, ou de la musique classique de l'Inde du Nord qui me tient à cœur parce que c'est une musique que j'adore et qui n'est pas tant que ça a pratiqué et joué, en tout cas à Évreux.
C'est une autre musique classique.
Oui, mais qui est aussi exigeante que l'autre.
Et l'année dernière, le festival a été contraint de reporter sa 4e édition au mois d'octobre.
Oui, il l'a déplacé.
Il s'est déroulé exclusivement à l'église Saint-Aurin. Quels seront les lieux que le festival investira cette année ?
Eh bien, à nouveau Saint-Aurin, parce que c'est une acoustique intéressante. On travaille beaucoup en acoustique naturelle, hein. Donc, ça nécessite donc des lieux qui ont un peu de réverbération et qui permettent aux artistes de jouer sans amplification. C'est le cas donc de Saint-Aurin, qu'on va utiliser dans deux configurations. Une configuration, je dirais, frontale, face au cœur de l'église, et une autre configuration face à l'orgue, donc en inversant la position du public, selon les répertoires, c'est-à-dire qu'il y aura un programme de musique vocale romantique qui fait penser plutôt à de la musique de salon et qui sera faite sous l'orgue. Et les concerts qui font appel à une vocalité plus grande, je dirais, et à quelque chose qui une acoustique plus généreuse, seront plus près du cœur de l'église. Les autres lieux, la médiathèque d'Évreux, qui va être utilisée pour la première fois pour le festival, et c'est une très belle chose, un partenariat qui s'établit, qui s'initie, et je me réjouis, puis en plus c'est le 21 mars, et ce sera donc pour les suites pour violoncelle de Bach, dont on va parler. Et puis, troisième lieu, là aussi inédit pour nous, c'est la salle de conférence, donc on va appeler l'auditorium d'Aristide Briand, acoustique que je connais pour l'avoir entendu, une acoustique naturelle qui n'est pas extrêmement valorisante, ce qui fait qu'il y a un petit peu de sonorisation pour ce concert-là, et ce sera le concert qui sera consacré à la musique de l'Inde du Nord et du Rajasthan.
Alors, question qui peut paraître un peu curieuse, est-ce que tu choisis les artistes en fonction des lieux ou les lieux en fonction des artistes ?
Je ne peux pas répondre aussi franchement que ça en réalité, puisque j'avais dans l'idée au départ d'utiliser un lieu pour chaque artiste ou pour chaque type de répertoire. En réalité, je me suis contredit, puisque l'an dernier, les trois concerts dans le même lieu à Saint-Aurin, j'essaie de trouver dans le même lieu des acoustiques différentes. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que la unité de lieu, mais pas unité de son, puisque selon l'endroit où on se positionne, par exemple à Saint-Aurin, on peut avoir des acoustiques beaucoup plus courtes, beaucoup plus généreuses, beaucoup plus... Donc, je cherche, et nous cherchons tout le temps, à ce que l'acoustique soit quand même en rapport avec la musique qui va être pratiquée.
Alors, comment s'est passée la préparation de ce festival dans le contexte sanitaire qu'on traverse en ce moment ?
Avec beaucoup d'optimisme, en essayant d'oublier les éventuels scories et les éventuels problèmes. Donc, on a tout fait pour que... Enfin, comme on avait fait les années précédentes, d'ailleurs, parce que l'année 2020, ça s'était arrêté une semaine avant l'échéance, en fin de compte, mais tout était prêt. Là, les voyants passent au vert, en tout cas sur le plan Covid. Il y a d'autres voyants qui passent dans d'autres couleurs, mais donc on est tout à fait partant. Et puis, on est content aussi d'avoir une programmation variée, des artistes motivés, qui ont envie de rejouer, un public qui risque, ou qui ne risque pas, mais qui sera probablement démasqué, comme les chanteurs pour le Requiem. Je fais travailler le chœur Arziva depuis des mois, et il travaille tout le temps masqué. J'ai fait un essai l'autre soir en répétition, j'aurais dit, écoutez, enlevez le masque pendant 7 secondes, ils l'ont fait, et le son est 20% plus valorisant et plus intéressant. Donc j'ai hâte un peu de retrouver ça, et puis quelque chose d'assez naturel, quoi. Ouais.
Et alors, à chaque festival, vous dédiez un concert à Jean-Sébastien Bach. Cette année, concert d'ouverture, c'est Hélène Andreïev qui jouera ses versions des suites pour violoncelle du compositeur allemand. Je te laisse nous présenter cette première soirée.
Alors, bon, les suites de Bach, ce sont des œuvres. Il a écrit 6 suites pour violoncelle, comme il avait écrit 6 partitas et suites pour violon, comme il a écrit 6 suites ou partitas pour clavecin, des suites anglaises. C'était un peu une tradition pour les musiciens du 17e et les musiciens baroques, qu'ils soient luthistes ou clavecinistes et aussi compositeurs d'orchestre, d'écrire des suites. La suite, c'était un enchaînement de danse qui se faisait comme à la Renaissance, avec un prélude, avec une sarabande, avec un menuet, avec une gigue, enfin des choses qui était assez codifié, je dirais. Et à l'époque de Bach, c'était extrêmement fréquent, surtout. Mais dans la musique française, dans la musique allemande, il y avait cette idée de la suite qui permettait de varier un peu, d'avoir des mouvements lents, des mouvements rapides, de faire appel à différents types de virtuosité pour les instrumentistes. Et Bach, qui était un compositeur qui touchait à pas mal de genres. On le connaît surtout on le connaît bien par sa musique d'orgue, on le connaît pour ses cantates sacrées. Il a écrit des cantates profanes, il a écrit de la musique de clavier énormément, le clavier bien tempéré, enfin. Et il se trouve qu'il a eu plusieurs postes dans sa vie, et il a été en poste entre 1717 et 1723 à Arnat-Köthen. Et dans cette province, il a été au service d'un responsable qui n'était pas du tout religieux. Et ce qui fait qu'il a profité de ce moment-là pour composer ses suites pour violoncelle, et également ses suites d'orchestre. Les concertos brandebourgeois ont été composés à ce moment-là, des cantates profanes, donc des cantates pièces vocales, enfin qui font appel au chœur, aux voix et à l'orchestre, qu'il avait quelquefois adapté, quelquefois il s'est amusé à transformer une pièce religieuse en pièce profane, en changeant le texte tout simplement. Donc ça, c'est des choses que Bach faisait, il aimait bien jouer avec les choses. Et donc, les suites pour violoncelle sont des pièces qui font partie du grand répertoire des grands violoncellistes, avec des particularités aussi, puisque le violoncelle était un instrument qui était encore un peu balbutiant à l'époque. Le violoncelle que l'on connaît actuellement n'existait pas vraiment à l'époque de Bach. C'est un instrument qui était en mutation, il n'était pas d'ailleurs très apprécié. Le violon n'était pas l'instrument le plus apprécié à cette période-là. Et donc, dans la famille du violon, il y avait un violon basse, qu'on appelait basse de violon, et qui est possiblement l'instrument pour lequel Bach a composé ses suites. De même, la suite 5 et la suite 6 font appel à des instruments un petit peu différents, plus aigus, avec ce qu'on appelle une scordatura, c'est-à-dire qu'il y a des cordes qui sont accordées plus haut pour pouvoir jouer dans une tonalité différente. Donc, Hélène Andreïev jouera, à l'occasion de ce concert du 21 mars, la 5e suite, qui fait appel à la scordatura, ce deux accords d'une corde. C'est pas faux, hein, mais c'est juste, on la désaccorde, on la monte d'un ton, et puis l'accord est complètement différent de l'instrument. Et puis, la première et la 3e suite, qui sont des pièces, évidemment, que l'on connaît très bien, puisque elles font appel à un appareil, je dirais, sonore, extrêmement mélodique, extrêmement agréable, des tonalités très simples, sol majeur, do majeur. Et on pourrait peut-être écouter le prélude de la suite numéro 1, qui est en sol majeur, et je pense que tout auditeur va retrouver ses pas. Thank you.
C'était le prélude de la première pour violoncelle seule de Bach d'Elena par Elena Andreev.
Première suite.
Prélude de la première suite pour violoncelle seule de Bach. Comment expliques-tu que Bach inspire autant de musiciens contemporains encore aujourd'hui?
Parce que c'est tout simplement très beau. C'est une musique qui est une musique profonde, qui est une musique humaine, qui est une musique virtuose quand il le faut, qui est touchante par... Non, je pense qu'elle c'est une musique multicouche. C'est-à-dire que Bach, je crois que c'est le compositeur, on peut y trouver absolument tout ce qu'on veut. C'est-à-dire quelqu'un de croyant, il trouvera beaucoup de choses, mais quelqu'un qui est athée, il trouvera aussi beaucoup de choses. Quelqu'un qui aime la mélodie, il trouvera aussi son compte. Et puis, je pense que oui, c'est les gens qui sont passionnés par la symbolique penseront qu'il est franc-maçon, d'autres penseront qu'il est Rose-Croix, d'autres penseront qu'il est... Parce qu'on trouve toujours une multitude de symboles. C'est réellement quelqu'un d'extraordinaire, quoi.
L'univers, c'est elle.
Plus que ça. Il y a une profondeur qui est extrême. Et puis, je veux dire, on peut encore gratter et on trouve toujours des choses.
Et je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu transgressif chez lui, justement, parce que les règles, finalement, c'est lui qui les a fixées, Bach.
Pas vrai. C'est curieux. On a l'impression, oui. Mais la réalité, non. C'est qu'il construit sur quelque chose d'extrêmement solide. Tout à l'heure, je parlais de la suite. C'est pas lui qui l'a inventé. Le violoncelle, tel qu'il le pratique là, et tel que joue Léna, oui, c'est lui qui l'a inventé. Probablement, il a créé quelque chose, mais il l'a fait toujours avec l'idée de choses antérieures qui lui ont permis d'exprimer son talent. Il a passé son temps, je pense, pendant toute sa jeunesse, à recopier, par exemple, des œuvres du passé. De son passé très proche, d'ailleurs, hein, parce que le passé, pour lui, c'était 10 ans. Hein. C'est-à-dire qu'il apprenait qu'une œuvre était éditée, il la récupérait, il la copiait à la bougie, enfin, c'était un truc. Donc, il a vraiment... Non. Oui, à la fois transgression et en même temps imprégnation totale de son monde et de la culture de l'époque et d'un petit peu avant. Ouais.
Alors, tu es spécialiste de musique ancienne et baroque. Comment donne-t-on à l'ancien le goût de la nouveauté? Enfin, le parfum de la nouveauté. C'est-à-dire que la musique classique doit son renouvellement à quel phénomène?
Je ne sais pas si on peut parler de nouveauté. Je pense qu'il ne faut pas, en tout cas, figer la musique classique, alors entre parenthèses, hein, la musique classique dans un habit du 19e siècle. Voilà, ça c'est la première chose. Et je pense que là, on est en train de changer réellement les choses. Mais c'est aussi... je pense que l'approche que les musiciens contemporains ont de la musique classique, je dirais, ou musique qu'on pourrait appeler musique ancienne en réalité, hein, parce que c'est ça. Il y a la musique de maintenant, la musique de variété, la musique contemporaine, et puis la musique du passé, qui a déjà 5 ans, c'est de la musique du passé. Je veux dire, et donc tout ce qui va jusqu'au Moyen-Âge nécessite une approche, je trouve, pas organologique, mais un peu musicologique. C'est-à-dire qu'il faut savoir un petit peu comment les choses se font et comment elles se faisaient. Je pense que c'est ça qui différencie les musiciens actuels qui font la musique ancienne, pas tous, hein. Les musiques classiques, je veux dire, pas tous. C'est les différencie de ceux qui viennent en se disant, voilà, bon, j'ai un gros violoncelle avec une belle pique, ou j'ai un piano, et puis je joue tout en fonction de mon instrument. C'est pas l'instrument qui impose... c'est pas ce piano qui doit généraliser le son pour toutes les musiques. C'est au contraire, la connaissance des sources originelles, savoir que à l'époque du Moyen-Âge, on utilisait tel type de mode, tel type de choses, tel type d'échelle sonore, que pour à l'époque de Bach, il y avait non pas un piano Bösendorfer ou un piano Pleyel ou un piano Yamaha, mais des instruments assez rudimentaires, un clavecin, un clavicorde, savoir tout ça. Et du coup, lorsque l'on aborde un piano ou qu'on joue la musique de Bach au piano après, on a cette idée en tête. On a une sorte de culture. On ne part jamais de rien, quoi. Et ça, j'y tiens. Enfin, moi, je crois que c'est vraiment ce qui caractérise les bons interprètes. Et il y en a pas mal maintenant, parce que les formations sont très, très, très poussées maintenant dans les conservatoires, dans les écoles de musique. Il y a de plus en plus de gens qui partent vraiment dans l'interprétation de la musique depuis le passé jusqu'à et pas de, rétrospectivement, pas en partant d'une vision romantique où on se dit oui mais quel dommage Bach il connaissait pas le violoncelle moderne ou il connaissait pas la clarinette, bah non il n'avait pas voilà.
Alors on poursuit la programmation avec une réadaptation cette fois-ci d'Henri Purcell, Very Mad Songs par Anne Maguette, Bruno Elstrofer et David Chevalier. On peut revenir sur ce que sont les Mad Songs avant de présenter cette soirée.
Mais ça, c'est intéressant parce que ce concert-là, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que là, on est dans un concert donc, qui fait appel à la musique d'Henry Purcell, qui est un compositeur du 17e anglais, un compositeur baroque, génial compositeur, mort très très jeune lui aussi, un peu comme Mozart, il a vécu 35 ans, à peine. Et qui a été auteur de plein de choses et qui était extrêmement novateur. Il a écrit des mad songs, dont des chants de folie, des chants qui font appel à un peu à l'imaginaire, comme ça, des tourments de chacun. Musique qui est intéressante, qui n'a rien de complètement folle en elle-même, mais qui fait, dont les textes sont porteurs de cette folie. Je reviens sur l'idée de l'interprète. David Chevalier, Bruno Elstrofer, Anne Maguette sont des spécialistes de la musique ancienne. Mais pas que. David Chevalier joue de la guitare électrique, il joue du jazz, il joue de la musique électronique. Et ce qui fait qu'il a... Sa connaissance de la musique ancienne est énorme, mais il a adapté, il a fait certains passages, il a repris certains moments dans ses pièces pour faire des liens entre cette musique du 17e et la musique du 21e. La chanson et la mélodie que chantera Anne Maguette ne changent pas. Elle restera telle qu'elle, ou pratiquement telle qu'elle. Mais il y a une espèce de voyage permanent entre le monde de maintenant et le monde du passé. Ça, je trouve ça tout à fait intéressant. C'est pas du crossover, c'est vraiment quelque chose... Enfin, il n'y a pas de collage, c'est une espèce de voyage permanent. Et ça, je trouve ça assez fantastique. On pourrait peut-être écouter un extrait d'un autre programme, c'est aussi de la musique anglaise, il s'agit de John Dowland, donc compositeur du 16e siècle, qui c'était, je dirais, la première étape du voyage de ces trois musiciens dans le monde de la musique anglaise, avec déjà, donc on entendra le début qui est exactement du Dowland, avec luth ou théorbe, et puis la chanteuse, et puis progressivement le petit pont qui nous mène vers un autre monde. John Dowland, Come Again, avec quelques incursions dans la musique du 21e siècle. Vous voyez, on a vraiment un parcours entre la musique du 17e et la musique du 21e, même du 16e, puisque John Dowland est anglais du 16e siècle. Et je pense que pour le concert Purcell, dont on ne peut pas pour le moment avoir d'extrait, puisque c'est un concert qui est assez récent et un programme assez récent, on aura le même type de surprise. Je pense au cas, après, la chanteuse commence les phrases et puis les instrumentistes partent dans une sorte d'improvisation très maîtrisée, avec un talent extrême, voilà, donc voyage musical.
Et alors le 25 mars à l'église Saint-Aurin, toujours, on retrouvera la mezzo-soprano Marine Fribourg avec la pianiste Flore Merlin. Quels personnages et spectateurs là vont croiser au cours de cette soirée ?
Alors, c'est un programme, je dirais, c'est le plus académique qu'on ait jamais créé pour vous faire pour le festival. C'est un récital chant-piano. Là, c'est vraiment la chose qui correspond aux critères habituels du concert classique. Sauf que Marine Fribourg est une mezzo-soprano, donc une soprano un peu plus grave qu'une soprano, entre l'alto et la soprano, vous voyez, c'est pour les néophytes, une voix intermédiaire de femme, donc qui correspondrait au baryton pour les hommes. Et chanteuse qui est passionnée par la musique du passé, elle connaît extrêmement bien la musique ancienne, elle la pratique très très souvent, elle chante également la musique contemporaine, elle chante et elle dirige également, elle dirige un chœur, elle dirige de multiples académies, et donc elle a une culture assez générale de la musique. Flore Merlin, son accompagnatrice en l'occurrence, est pianiste, mais pas que. Elle joue de l'orgue, elle joue du clavicorde, elle joue du clavecin, et elle joue sur des pianos historiques, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse à la facture du piano. Le piano est apparu dans les années 1740, 1750, Cristofori à l'époque de Bach, puis ensuite il s'est développé de manière indépendante et a quitté une espèce d'allure de clavecin déguisé qu'il avait au début pour devenir un instrument à part entière. Et il se trouve que à l'époque de Mozart, à l'époque de Schubert, on avait un instrument très particulier, le pianoforte. Et le piano a réellement trouvé progressivement des couleurs. Il n'y a pas de progression. Pour moi, il n'y a pas de progrès, il y a une évolution. Et moi, je ne peux plus imaginer écouter Mozart sur un piano de 4 mètres de long. Ça peut être très bien. Ça peut être très bien, mais malgré tout, il faut savoir comment c'était fait, on en parlait tout à l'heure, et je pense que Mozart ne sonne jamais aussi bien que lorsqu'il est fait sur un instrument de son temps. Malheureusement, je dirais, pour le concert de Marine Fribourg et de Flore Merlin, qui est un programme qui s'appelle Lorelei, qui est un programme qui va aborder l'idée de la forêt et des mystères des forêts germaniques du 19e siècle. Lorelei étant personne qui était pour alpaguer les marins sur le Rhin et leur faire peur et les faire sombrer. Donc il y a tout cet univers de la poésie, des ondins, des ondines, des monstres de la forêt, au travers de tout ce répertoire du 19e siècle. Hein. Alors malheureusement on aura un joli piano, mais on aura un piano moderne, parce que c'est assez compliqué de faire venir un piano historique. Mais je ne désespère pas. J'espère qu'on pourra de plus en plus coller avec ça. Mais là, l'instrument qu'on aura sera très beau. Et oui, c'est un programme qui est très théâtral. C'est-à-dire que Marine chante et vit vraiment les textes de manière très très forte. Donc, on peut peut-être écouter une pièce d'une compositrice française, enfin d'origine espagnole, mais française, qui s'appelle Pauline Viardot, qui était elle-même chanteuse. Et c'était la fille de Garcia, qui était un grand ténor. Et c'est une pièce qui s'appelle Nix Bins Fus, et qui, grosso modo, je crois... Attendez, je peux vous lire peut-être le tout début du texte pour qu'on la traduction. « La fillette de l'esprit des eaux danse sur la glace au clair de lune. Elle chante et rit effrontément, même en passant devant la maison du pêcheur. » Mondschein
von Böhmerglas mein Kasten ist. Da zähl ich sie zu jeder Frist, da zähl ich sie zu jeder Frist, da
pièce de Pauline Viardot en allemand, tu le diras mieux que moi, Bruno. Nix Bins Fuss.
Non, mais c'est parfait.
En français, c'est pour ouvrir les guillemets. Landine au pied de Jonc. Donc, ce sera le 25 mars à l'église Saint-Aurin, dans le cadre du festival Un Sacre du Printemps, avec la mezzo-soprano Marine Fribourg et la pianiste.
C'est la
pianiste Flore Merlin. Quels concerts sont prévus pour le public jeune cette année?
Dans le cadre du partenariat avec la médiathèque, les artistes, à savoir Marine Fribourg et Flore Merlin, ainsi qu'Elena Andreev, proposent des ateliers qui seront proposés donc pour les petits. Elena, le 21 mars, je crois, fera une petite présentation de son instrument pour des enfants, pas de 0 à 8 ans, mais en tout cas des tout petits, avec leurs parents évidemment. Et puis, je crois que c'est à 17h le 21 et le 25, le jour donc du concert de Marine et de Flore, elles viendront à la médiathèque pour faire un mini-concert à 15h, je crois. À 15h, dans lequel elles présenteront un peu ce que c'est que le métier de chanteur et de pianiste, de chanteuse. Donc, elles feront un mini-récital également pour un public plus grand, je crois. Peut-être 8, 10 ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est une première et c'est vrai qu'on aime bien et dans les années passées on a souvent fait des projets qui impliquaient directement les enfants. Je me souviens d'une résidence parce que bon, je suis directeur du festival, mais Il se trouve que j'ai aussi un ensemble qui s'appelle Ludus Modalis, avec lequel on a fait pas mal de choses, à Évreux notamment, avec la scène nationale. Et on avait été en résidence plusieurs années consécutives dans certaines écoles de la Madeleine. Et on a pu faire un travail assez fourni sur le... Justement, avec les enfants, sur la langue ancienne, sur le français du 16e, du 17e. Et je trouve que c'est tout à fait intéressant. Alors là, bon, ça s'est transformé un tout petit peu et c'est bien que les interprètes viennent et présentent également leur travail de manière la plus vivante possible.
Et nous voilà après, donc au 26 mars, avec un répertoire classique dans les musiques d'Inde du Nord cette fois-ci.
Alors classique pour la musique de l'Inde.
Musique de l'Inde.
Parce que l'Inde, il se trouve que la musique européenne n'est pas extrêmement fréquentée, ou musique occidentale n'est pas très fréquentée en Inde, mais il y a une tradition de la musique écrite. Traditionnelle, de la musique transmise, en tout cas de manière très structurée, et qui existe depuis je ne dis pas la nuit des temps, mais depuis en tout cas le haut Moyen-Âge. Et il se trouve que la musique de l'Inde, donc qu'elle soit du nord hindouistan, soit du sud, musique carnatique, fait appel à des échelles modales, des échelles non pas tonales comme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais avec des intervalles particuliers, des échelles qui créent des atmosphères très particulières. C'est-à-dire que le fait de chanter et de partir sur un mi ou sur un ré, et d'enchaîner un ré, di, da, di, da, di, da, di, 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 par exemple, ça crée quelque chose de particulier. Et les ragas sont des formes musicales qui explorent ces échelles sonores, mais de façon extrême. C'est-à-dire que c'est pas la forme de 3 minutes qu'on connaît beaucoup dans la variété ou dans d'autres genres actuellement, mais c'est des formes qui n'ont pas de durée limite. J'ai le souvenir d'un concert auquel j'avais assisté à Mysore, où il y avait une autorité, un maire, donc un monsieur Lefranc local, qui était arrivé pour le concert et qui voulait faire son petit discours alors que l'artiste allait commencer son raga. Le maire arrive, se met à côté du micro, et puis le musicien fait simplement un petit signe de la main. Il commence. Et il a dû chanter pendant 40 minutes. 40 minutes, et le maire attendait toujours pour faire son discours. Et j'ai trouvé ça extrêmement bien. Parce que je pense que ça n'arriverait pas chez nous, malheureusement. On couperait et on dirait aux musiciens, taisez-vous, je vous parlerai après. Le maire partirait très très vite. C'est comme ça que ça se passe. Là-bas, il y a une espèce de tradition et un respect énorme du musicien qui fait qu'il est au-dessus de ça. Et au-dessus des lois de l'administration, je dirais. Et ça, c'est un très bon souvenir pour moi, un très bon souvenir. Donc là, on a 3 musiciens qui viennent, les Amrat Hussain Brothers, donc c'est deux frères Hussain et puis leur frère, et qui viennent du Rajasthan. Il y en a 2 qui habitent en France, un qui vient directement du Rajasthan, et un chanteur, un joueur d'harmonium, 2 joueurs de tabla, des percussions, également cartels, qui sont des espèces de castagnettes indiennes. Et c'est un programme où il y aura donc un raga, dont je n'ai pas le minutage exact, parce qu'eux-mêmes ne savent pas combien de temps il durera, et puis des pièces un peu plus accessibles pour le public. Alors on a aussi, pour ce concert-là, initié donc le premier partenariat avec le lycée Aristide Briand. Moi, j'ai pu intervenir à plusieurs reprises dans le cadre de ce partenariat, justement avec les élèves de première et terminale, où on a travaillé, on a fait un travail assez amusant sur le rapport entre la musique occidentale et la musique indienne. Et donc, on a travaillé sur les modes dans la musique du Moyen-Âge, par exemple, parce qu'il y a aussi des échelles sonores comme ça, mode de ré, mode de mi, mode de fa, mode de sol, en musique classique ou en musique ancienne. Et on a comparé un peu et on a fait chanter un peu tous les élèves. C'était assez passionnant. On peut peut-être écouter un extrait d'un concert. Donc on n'écoutera peut-être pas tout parce que je pense que c'est assez long, mais ça nous permettra peut-être de nous faire une idée un peu de la manière dont un raga s'organise. Le raga, donc je parlais d'une échelle sonore, mais il y a une note fondamentale, un bourdon. Une note qui va être la base de toute l'évolution de la mélodie. Cette note, elle est en général faite par un instrument qui s'appelle tanpura, tanpura, qui est un instrument à quatre cordes, avec des cordes sympathiques en plus, donc des cordes qui résonnent. Il se trouve que maintenant, les instrumentistes indiens utilisent souvent une boîte électronique qui fait le son de tempura, parce que payer un musicien pour faire un seul son pendant une demi-heure, c'est pas très économique. Donc je pense qu'il y a des petits changements malheureux. Merci à la technologie. Sur ce bourdon-là, se développe progressivement toute la mélodie et l'atmosphère du raga, sachant que le raga, normalement, n'est pas sur un texte. Les chanteurs et les musiciens indiens, le chant étant l'instrument roi dans la musique indienne, l'utilisent des onomatopées, qui en réalité sont les noms des notes en hindouistan ou dans la musique atlantique de la même manière, dans l'Inde du Sud. Le nom des notes est donc do, ré, mi, fa, donc c'est ta, ra, ka, mi. Voilà. Ils sont là-dessus et ça suffit à créer une atmosphère incroyable et on arrive en réalité, en écoutant cette musique-là, à avoir l'impression d'entendre une histoire alors que ce sont simplement sept syllabes qui sont prononcées.
Amrath Hussain Brover Trio, que vous retrouvez le 26 mars à l'auditorium du lycée Aristide Briand dans le cadre du festival Un Sacre du Printemps. Je suis toujours avec Bruno Botteuf.
Ouais, c'est très frustrant d'écouter, de devoir couper ça, parce que c'est vrai que là, c'est de la musique qui ne correspond pas du tout, dont les critères ne sont pas ceux de la musique actuelle.
C'est pas les nôtres, quoi.
Exactement, et donc le développement est très long. Là, entre c'est Sanjay Khan qui chante et qui s'accompagne lui-même à l'harmonium et qui part dans son long chemin comme ça. Et évidemment, il faut être sur place. Ça s'écoute pas comme ça, d'ailleurs. C'est un enregistrement de concert et je trouve ça assez frustrant. Mais voilà. Mais j'invite tout le monde à participer à ce voyage. Vous voyez là, on entend que les percussions arrivent progressivement, alors qu'on les avait pas jusque-là. Les tablas arrivent. Il y a tout un univers qui se crée face au public comme ça, et en direct. Et ça, c'est vraiment très bien. Et qui n'est pas la même chose que du tout dans notre musique, quoi.
C'est un autre monde qu'on essaie d'inventer à travers un festival. Écouter de la musique d'Inde du Nord à Évreux, c'est quand même assez rare. Moi, historiquement, qui connais bien l'histoire.
Oui, je crois qu'il y a eu
des concerts. Il y en a eu certainement, mais j'en ai plus souvenir. C'est pas très souvent. C'est une ouverture comme ça sur les musiques du monde. C'est une première pour le festival où chaque année vous essayez.
Non,
de...
il y a quelques années, il y avait déjà eu un concert de musique du Rajasthan. Non, moi je le souhaiterais qu'il y en ait plus. Voilà. Après, c'est des questions de hasard et puis savoir aussi que le public n'est pas forcément prêt, ou en tout cas, il y a un public pour ça, mais ce n'est pas le grand
très
public.
Très mineur, oui, je pense que le
bien
public
sûr.
Des musiques dites du. Ce qu'on appelle les musiques du monde, mais j'aime pas trop le terme, enfin, il est encore en usage. Je pense que c'est un public assez minoritaire.
Mais bien sûr, ce sont des niches, mais un peu comme celui de la musique de la Renaissance, par exemple. Ce sont des petits publics, mais de gens qui connaissent extrêmement bien le domaine. Ce ne sont pas des gens qui vont par hasard. Et ce qui est intéressant justement dans l'idée d'une programmation comme celle-ci, c'est de pouvoir justement, pourquoi pas quelqu'un passionné par la musique de l'Inde, de venir écouter du Bach sur violoncelle baroque ancien, donc, ou écouter du Purcell un petit peu déjanté, ou écouter le Requiem de Mozart, puisqu'on va donner le Requiem de Mozart le 27 mars, dans une version dont on va parler peut-être, mais qui est un petit peu différente.
Donc effectivement, avec un autre monument de la musique classique, donc le Requiem de Mozart par le chœur Ars Viva, dans lequel tu officies en tant que... En tant que directeur de chœur, dans une version très originale, je te laisse justement nous faire part de l'originalité de cette version. Et puis surtout, tu vas nous parler de Bach, parce que je sais que tu en as
très...
De Mozart, pardon. De Mozart.
Là, je peux parler de Bach, mais on en a déjà parlé.
et puis justement, de l'originalité de cette version que vous allez proposer le 27 à l'église Saint-Ouen.
Bon, alors, je raconte un peu. Il se trouve que Mozart, il arrivait à la fin de sa vie. Très courte vie, hein. Il est né en 1756. On est en 1791. Et c'est une année très chargée pour lui. Il a eu une commande, donc commande de ce Requiem. Il a commencé à bosser pendant l'été un peu sur ce Requiem, mais il a aussi d'autres choses. Il vient de terminer La Flûte Enchantée. Il a La Clémence de Titus, qui est un opéra qu'il doit absolument rendre. Il vient d'écrire une cantate maçonnique. Il vient de publier et de faire créer son concerto pour clarinette emblématique. Pour un ami maçon, parce que si je parle de franc-maçon, c'est parce que Mozart était franc-maçon, évidemment, et très, très marqué par son appartenance à cette loge maçonnique pendant la fin de sa vie, notamment. La flûte, évidemment, c'est que ça, et puis concerto pour clarinette, cantate maçonnique, et je dirais que ces choses étaient très présentes dans sa musique. Le Requiem était une commande. Bon, il a écrit pas mal de musique religieuse, mais pas énormément. Je veux dire, si on regarde l'œuvre de Mozart, il y a beaucoup de musique vocale, beaucoup d'opéra, beaucoup de concertos pour piano, d'équateurs, de tout, beaucoup de musique de chambre, des sonates pour piano à profusion, et puis un peu de musique religieuse, pas énormément. Le Requiem est une œuvre assez géniale, mais elle n'a pas été finie à l'époque. Quand Mozart donc a travaillé en juillet, ensuite il a retravaillé dessus en octobre, et puis il n'arrivait pas au bout. Hein. donc il avait d'autres choses à faire, en réalité. Il est mort, et sa femme, Constance, a trouvé dommage que l'œuvre qui n'était pas achevée, donc ne soit pas finie réellement, et elle a demandé à des élèves de Mozart de travailler sur l'œuvre. Et c'est trois élèves qui ont essayer de réfléchir à ça. Il y en a un qui était probablement pas le plus brillant, qui s'appelait Süssmayer, qui a pris quelquefois des mélodies qu'il avait entendues dans d'autres œuvres de Mozart, qui a repris le début de l'introit pour en faire la fin de Requiem. Il a fait une sorte d'arrangement de certains passages pour en rendre l'œuvre tout à fait plausible et telle qu'on la connaît en réalité. Elle a été instrumentée, une partie est instrumentée donc pour orchestre par Mozart, l'autre partie par Süssmayer et peut-être ses acolytes. Donc on a une œuvre qui reste homogène, il y a des styles, bon, si on cherche réellement, il y a des moments où on perd un peu la plume de Mozart. Alors ce qui est intéressant, c'est que Mozart lui-même dans ce Requiem utilise beaucoup de choses qui étaient, on parlait de Bach tout à l'heure, mais il y a beaucoup de Bach dans le Mozart du Requiem, beaucoup de fugues, beaucoup de contrepoints, des choses qui viennent du passé. C'est comme si c'était un peu replongé là-dedans, un peu pour construire quelque chose de vraiment religieux. Et œuvre que tout le monde adore, et donc que l'on pourra entendre dans une version qui n'est pas la version habituelle, la version orchestrale. Il faut savoir qu'après la mort de Mozart, donc, il y a eu beaucoup d'arrangements de cette œuvre. Et il y a Czerny, Karl Czerny, qui était un pianiste pédagogue quelques années plus tard, qui a écrit une version pour piano à quatre mains de ce Requiem. Il y a aussi des versions avec orgue, cordes, voilà, qui sont apparues. Et j'ai proposé pour cette version du 27 mars de faire un compromis. Donc c'est une version, on aura deux pianos qui reprennent en grande partie la partition de Czerny. Et puis des timbales, qui sont les parties de timbales qui sont dans le Requiem, mais qui sont aussi emblématiques de cette œuvre. Ce côté majestueux, ce côté grandiose qu'il y a par moment. Alors, une version de piano timbale, on n'a pas l'orchestre, mais on a beaucoup plus de voix. Quatre voix solistes, soprano, alto, ténor et basse, et un chœur assez conséquent, le chœur Arziva, qui une cinquantaine de chanteurs. Ce qui fait que je dirais que on a peut-être une vision de Mozart un peu plus textuelle. On aura quelque chose qui sera beaucoup plus sur la vocalité et moins sur l'instrumentalité. Donc je pense que c'est une version qui mérite d'être écoutée. J'aime beaucoup ces versions des œuvres qui sont du vivant pratiquement de Mozart, mais qui, ou du compositeur, mais qui sont déjà des lectures que des contemporains ont pu faire de leur contemporain ou de leurs collègues, et je trouve ça assez passionnant. Donc je pense que le public sera surpris et agréablement surpris d'entendre l'œuvre dans un autre habillage. Voilà, on peut peut-être écouter. Alors il se trouve que ce qu'on peut entendre là maintenant, c'est un extrait d'un concert d'un chœur espagnol, je crois. J'avoue que je n'ai pas de grande précision sur ça. Je l'ai trouvé, et c'est vraiment un enregistrement donc sans les timbales, avec simplement piano à quatre mains et chœur et voix soliste.
Et avant de lancer le titre sur lequel on va se quitter, déjà je vais te remercier une nouvelle fois, Bruno, d'avoir été ici. Merci aussi pour ce festival qui est, je le rappelle, audacieux, exigeant. On a de la chance à Évreux d'avoir un festival comme celui-ci. C'est une démarche qu'il faut soutenir. Dernière question, alors c'est assez peu banal pour un directeur de festival de faire aussi partie de la programmation, puisque tu es chef du chœur Ars Viva. Est-ce qu'il faut être au four et au moulin quand on dirige le festival Un Sacre du Printemps?
Non, mais c'est en tant que musicien que le festival est né. Moi, c'est-à-dire qu'il y a des festivals où ce sont des administrateurs ou des gens qui ont une vision pas commerciale, mais en tout cas peut-être plus rigoureuse. Moi, je suis venu à ce festival par un besoin de partager des goûts que j'avais, et donc je ne peux pas oublier que je suis musicien, je suis chanteur quand la voix fonctionne bien. Là, j'ai une mauvaise cochonnerie qui me traîne depuis quelques mois, donc c'est assez désagréable, mais ça ne m'empêche pas de diriger, d'entendre, les oreilles sont encore très bonnes. Voilà, donc non, ça, je pense que c'est important d'avoir le contact avec la matière, en tout cas, voilà, donc... un petit détail, une petite chose quand même, je tenais vraiment à dire que bon, j'espère que ce festival nous permettra de toucher le public le plus varié possible. Voilà, les informations concernant le festival,
peut-être information et billetterie,
oui, voilà, tout est sur le site du festival qui s'appelle unsacreduprintemps.fr. Vous y trouverez tous les détails que vous souhaitez avoir, faire les réservations en ligne, les billets vous attendront à l'entrée des concerts. Voilà, tout, c'est extrêmement simple. C'est pas très onéreux. On essaie d'être respectueux du public et de la qualité, respecter les interprètes aussi en les payant quand même à un tarif normal. Et voilà, donc tout ça, c'est des choses... Et c'est aussi parce que moi-même, je suis artiste, je dirais entre parenthèses, que j'ai conscience de ça. On ne peut pas du tout maltraiter les gens qui viennent, et le public aussi. Donc, il faut trouver un moyen terme.
Un juste milieu.
Donc, unsacrededuprintemps.fr.
Merci Bruno. Et puis, les conditions de... Enfin, les règles de distanciation sociale et les conditions et sont quand même un peu moins dures.
Ouais, j'ai l'impression.
Elles ont été jusque-là. Et
j'ai l'impression qu'à partir du 14
salles, ouais.
qu'on va se retrouver et qu'on pourra normalement, peut-être se parler normalement et retrouver nos visages et nos bouches souriantes. Un extrait donc de ce Requiem de Mozart dans la version piano-chœur.
Et on se retrouve au festival Un Sacre du Printemps. Merci Bruno.
À très vite, merci.